avec une histoire, et certains vont peut-être trouver d'où vient l'histoire. Le titre du message, c'est la nouvelle charte du royaume. Une petite fille prénommée Dorothée et son petit chien Toto, qui vivent au Kansas, sont élevés avec leur maison par une tornade et transportés dans un royaume merveilleux. La maison tombe sur la méchante sorcière et la tue sur le coup. Dorothée récupère les souliers d'argent ou d'or rubis de la sorcière pour trouver un moyen de se rendre au Kansas. La gentille sorcière du Nord lui conseille de s'adresser au grand et puissant magicien qui réside dans la cité d'Émeraude. Pour s'y rendre, il faut suivre une route de briques jaunes. En suivant, Dorothée rencontre un épouvantail qui se plaint de ne pas avoir de cerveau. Un bûcheron en fer blanc qui regrette de ne pas avoir de cœur. Et un lion qui déplore son manque de courage. En suivant Dorothée, tous les trois, ils se rendent auprès du magicien pour qu'il leur accorde ce qu'il leur manque. Le magicien accepte à condition qu'ils éliminent la méchante sorcière. Dorothée y parvient en jetant le seau d'eau sur la sorcière qui l'a fait fondre. Mais le magicien se trouve être un imposteur. Il réussit tout de même à donner à l'épouvantail, au bûcheron et au lion ce qu'il réclame. Mais il est plus difficile de ramener Dorothée au Kansas. Il fabrique pour cela un ballon. Mais celui-ci s'envole avec le magicien et s'endort. En fin de compte, Dorothée peut rentrer chez elle grâce à l'aide de la gentille fée du Sud, qui lui apprend que les souliers d'argent pouvaient l'aider. Il lui suffit de claquer trois fois des talons et d'exprimer son souhait. Cette histoire a été écrite en 1890 par un monsieur qui s'appelait Lyman Frank Brown. Ça a été publié aux États-Unis en 1900, en France en 1931. Ça a été publié sur l'écran en 1939 par Victor Fleming. Et c'est en train de reparaître au cinéma, ça s'appelle Le Magicien d'Oz. Vous dites, mais Jean-Claude, il nous raconte des histoires toutes bizarres. Moi, je trouve en écoutant parfois nos conversations que Dieu, c'est le magicien d'Oz. Qu'on va vers lui quand on a des problèmes. Que finalement, avec sa baguette magique, il va nous délivrer. Mais je rappelle que là, le magicien d'Oz, c'est un faux. Et que c'est souvent, je pense, plus le diable, qui nous fait miroiter des choses, qui nous fait croire des choses. Mais vous avez vu, à la fin, tu as le pouvoir en toi, tape trois fois des talons. Seigneur, donne-moi. Je vais recevoir. Donne-moi, Seigneur, donne-moi un enfant. T'attendras 7 ans, mon beau. La route de briques jaunes. La Bible nous parle de la route de briques jaunes. Que celui qui me suit prenne sa croix. Le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, c'est Jésus-Christ. La seule porte qui nous donne accès à Dieu, c'est Jésus. Le seul cep, c'est Jésus. Dans cette nouvelle charte, Jésus l'expose dans l'évangile selon Matthieu. Il nous dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Vous savez, quand on prie, alors je ne vais pas trop bouger parce que sinon ça ne va pas enregistrer, il y a le technicien qui me dit « ne bouge pas, bouge pas ». Quand on prie, on commence par prier « Notre Père qui êtes aux cieux ». Mais c'est biblique, n'est-ce pas? C'est biblique parce que c'est la prière que Jésus a enseignée. Mais c'est où les cieux? C'est loin, c'est loin, c'est très très loin. En fait, notre Dieu, il est très très loin. Matthieu 4, 17, il dit, dès ce moment, je vais y revenir à tout ça. Jésus commença à prêcher, à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dans Luc 6, alors Jésus, levant les yeux vers ses disciples, dit, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume des dieux est à vous. Le royaume des cieux est le royaume de Dieu. C'est intéressant, c'est que Les deux termes sont employés. Le royaume des cieux est utilisé 32 fois sur 31 versets dans l'évangile selon Matthieu. Royaume de Dieu est utilisé 69 fois dans tous les évangiles. Jésus va utiliser 4 fois la terminologie royaume de Dieu. Mais est-ce que ce sont des synonymes ? D'abord, c'est quoi un royaume ? Un royaume, d'après le dictionnaire Larousse, et là c'est M. Larousse qui parle, il dit c'est un État gouverné par un roi. Je pense que M. Larousse, c'était un copain de d'un autre collègue qui lui racontait des histoires. Un royaume monarchique. M. Lapalisse, voilà, je cherchais. Si nous restons dans une interprétation, le royaume de Dieu, c'est l'État où Dieu règne comme roi. Et c'est juste. Mais dire cela ne nous fait pas beaucoup progresser. Dans l'évangile selon Matthieu, Jean-Baptiste, qui était là avant Jésus, il annonçait le royaume, la venue du royaume de Dieu, et il leur dit, donc, le royaume des cieux est proche. Dans Matthieu 4, Jean-Baptiste dit, comment rentrer dans ce royaume ? Il dit, changez d'attitude. Repentez-vous, sinon vous ne pourrez pas rentrer dans ce royaume. Le texte ne parle pas de quelque chose qui va arriver, qui n'est pas encore là, ou qui arrivera peut-être. Mais en fait, le texte nous dit que le royaume de Dieu s'est approché de nous, qu'il est là, que Jésus nous donne de pouvoir y avoir accès. Quand dans le salon, la maman dit « On va manger », ou le papa, que le repas est servi, que tout le monde va peu passer à table en allant dans la salle à manger. Il ne dit pas « je vais commencer à cuisiner ». Mais le repas est déjà prêt. Et donc nous pouvons passer à table. Quand Jean-Baptiste dit « le royaume de Dieu est proche », il nous invite à y rentrer. Et la porte d'entrée, c'est Jésus. C'est lui qui a ouvert la porte. C'est lui qui a déchiré le rideau qui nous séparait. C'est intéressant. La prochaine fois que vous allez dire « Notre Père qui es aux cieux ». Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es présent. Ça nous simplifie la vie de dire que Dieu est au ciel et que nous, nous sommes sur la terre. Parce que comme ça, il est dans son coin et je suis dans mon coin. Mais alors, il n'est pas le roi de ma vie. En fait, le royaume de Dieu, c'est là où il règne. Et donc, la question à se poser ce matin, c'est est-ce qu'il règne dans ma vie ? Est-ce qu'il règne dans ma vie ? Est-ce que ça sera demain ? Vous savez, c'est comme le régime. Je commence demain. Et le royaume de notre Dieu, quand Dieu nous dit de rentrer dans son royaume, il ne nous dit pas demain. Il ne parle pas de la nouvelle Jérusalem. Le royaume de Dieu, ce n'est pas la nouvelle Jérusalem que nous attendons, que Jésus est en train de nous préparer. Et c'est une description magnifique, hein, quand on va dans l'Apocalypse. Mais Dieu nous parle d'un royaume bien présent, bien actuel, dans nos familles, dans notre travail, dans nos relations. Est-ce que Dieu règne ? Ou est-ce qu'il est juste le dimanche matin ? Où nous pouvons non pas venir chercher, mais venir porter notre reconnaissance, notre amour. Le dimanche matin, on ne vient pas chercher. Même si on vient écouter la parole de Dieu, on vient y porter nos hommages. On vient glorifier, dire du bien. C'est ça qu'on fait ensemble le dimanche, non ? La première partie de notre culte, c'est rendre honneur et gloire à notre Dieu. La collecte, c'est lui donner ce qui lui revient, ce que nous avons mis de côté. Le royaume de Dieu se trouve tout proche, juste à côté, au milieu de nous. C'est le royaume de Jésus. Et la chose que nous confondons, c'est que voilà, puisque Dieu est au ciel, moi je suis bien sur terre. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une réalité sociale ou politique, mais c'est en fait une réalité où Dieu opère sa vie, son contrôle et sa volonté. On dit dans la prière de Matthieu 6, on dit « Que ta volonté soit faite au ciel et où ? Et sur la terre. » Au ciel, elle est déjà accomplie sa volonté, puisque c'est son royaume. Mais sur terre, ça c'est un peu plus compliqué. Hein. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Ça va venir un jour, tu sais, Seigneur. Il va falloir que tu sois patient. L'intervention de Dieu est dans notre vie. Les Juifs, ils considèrent qu'il y a trois ciels. Nous, on en a sept, hein. Dieu, comme ça, on est tranquille. Le premier ciel, c'est ce qui nous entoure. C'est là où les oiseaux volent, où les avions même vont encore, hein. Le deuxième ciel, c'est ce qu'il y a au-dessus, la stratosphère. Là où seules les fusées vont, là où il y a les planètes. Et puis le troisième ciel, eh ben c'est au-dessus. Et c'est là où il y a Dieu. Et vous vous rappelez, je vous avais raconté cette histoire, hein, du pape qui, en avion à chaque étage, il demandait un whisky, puis quand il arrivait à une certaine altitude, il a dit « Je ne sais pas qui je vais rencontrer, là, donc je préfère prendre de l'eau. » Le texte nous dit, le texte de Matthieu, il ne nous dit pas « Notre Père qui est au ciel ». Mais il nous dit, notre Père qui est aux cieux. Or, si on considère qu'il y en a trois, et qu'il est présent dans les trois, donc, notre Père qui est là. Ça va changer ma vie, non ? Ça va changer de dire que je ne m'adresse plus à un Dieu qui est inatteignable, à des milliards et des milliards d'années-lumière, mais il est là. Et il me regarde. Il est en moi par son esprit. Waouh! Frères et sœurs, on a besoin de repenser à la charte de ce nouveau royaume. Heureux ceux qui sont humbles de cœur. Heureux les simples d'esprit. Le mot heureux, c'est pas béat, c'est pas stupide. Vous savez, quand on dit que les gens ils sont bien heureux. Ils n'ont pas les deux pieds sur terre. Ils marchent sur l'eau, mais... Le texte nous dit, béni. Béni. Sois les simples d'esprit. Béni les malheureux. Béni ceux qui ont soif. Béni ceux qui ont faim. Parce qu'ils seront rassasiés. La première partie de notre charte ce matin, c'est de considérer que la bénédiction, c'est Dieu qui nous la donne. C'est que Dieu, dans le ciel... Et c'est Éphésiens qui le dit. Dans le ciel, nous a bénis de toute bénédiction en Jésus-Christ. On le voit le vendredi, ça. Toute bénédiction, pas quelques, pas un peu. Dieu nous a un peu bénis. Non, il nous a beaucoup bénis. Et ce matin, il y a eu des témoignages où Dieu bénit. Le 12 avril, désolé pour les jeunes, mes illustrations, elles ont un peu mon âge. Elles datent un peu. Le 12 avril, bon, 1890, j'y étais quand même pas. Le 12 avril 1961, le premier homme dans l'espace. J'étais encore né en 51. Le premier homme dans l'espace. Vous savez comment il s'appelait ? Monsieur Yuri Gagarin. C'était un russe. C'est le premier homme. On avait envoyé des animaux dans l'espace. On avait envoyé des fusées dans l'espace, mais on n'avait jamais fait un vol habité. Alors on a envoyé M. Yuri Gagarin. Et M. Yuri Gagarin, on lui a mis dans la bouche des paroles, où récemment j'ai vu qu'il y avait une controverse, où il a dit que finalement, quand il est monté dans l'espace, dans les cieux, il a été dans les cieux. Et il a cherché Dieu, il ne l'a pas vu. C'est ce qu'on a dit. Hein. On a dit, M. Gagarin, il a dit, je suis monté dans les cieux, j'ai cherché Dieu et je ne l'ai pas vu. Récemment, il y a une controverse qui dit que ce n'est pas lui qui l'a dit, que c'est son président. Mais peu importe. Dieu, il est au milieu de nous. Dieu, il se tient à côté de nous. Comment est-ce qu'un Dieu qui serait à des années-lumière pourrait nous dire, voici, je me tiens à la porte et il aurait le bras long, hein? Non? Vous ne trouvez pas? Il a un bras d'années-lumière, hein? C'est un bras télescopique. Notre Dieu, il est proche de nous. Et il nous a laissé sa parole. Et il nous a dit, béni serez-vous quand vous aurez faim et quand vous aurez soif. Béni serez-vous quand vous serez rejeté. Béni serez-vous quand vous serez enfin simple et que vous comprendrez que pour rentrer dans le royaume de Dieu, rentrer, pas accueillir, rentrer dans le royaume de Dieu, ben, y a une chose qu'il va falloir changer. Et cette chose-là, vous ne pouvez pas la changer vous-même. C'est votre cœur. Et votre cœur, ce n'est pas la pompe qui envoie du sang dans tout notre corps. C'est le quartier général de ma volonté. Ma volonté, si elle n'a pas capitulé, si elle n'est pas inclinée devant Dieu en disant « Seigneur, c'est moi qui t'ai cloué à la croix. C'est moi qui finalement ai mis une séparation et bâti un mur entre toi et moi. » Alors, tant que ce mur n'est pas cassé, tant que ce voile n'est pas déchiré, tant que nos yeux n'ont pas le bon collyre, tant que nos pensées ne sont pas régénérées, on peut croire que Dieu existe, comme une grande partie de la population française, vous savez. Mais ça ne change rien. Ma question ce matin, avec notre texte, si je connais la nouvelle charte du royaume de Dieu, qui me dit « Heureux, repentez-vous, rentrez, je suis la porte », est-ce que je suis rentré dans ce royaume? Est-ce que c'est encore quelque chose où je me dis, ça sera demain? Confondre Dieu avec le magicien d'Oz, être du même genre que lui, c'est finalement représenter l'espace avec un grand vide, avec un Dieu qui est encore plus loin de l'espace. Il est au-dessus, il regarde, il se dit, oh les malheureux. Je ne peux rien faire pour eux. Mais finalement, Dieu, il est bien sur terre, mes amis. Et nous sommes la manifestation d'un changement de cœur. Non? Mais il y a encore un petit peu de travail à faire, n'est-ce pas? Il y a encore un petit peu de nettoyage à faire à l'intérieur. Ça va nous prendre la vie entière, non? Il n'y a pas d'espace vide entre nous et Dieu. Le royaume des dieux est proche. Le royaume de Dieu s'est approché. Jésus est venu jusqu'à nous. Jésus nous a ouvert la porte. Et nous passons encore notre temps à faire comme s'il était loin. Comme s'il était inatteignable. Comme si, quelque part, quelqu'un m'écrivait ce matin, à un moment, il avait démissionné Dieu. Il avait laissé tomber. Mais dans ce ciel qui est notre vie, Dieu intervient. Si on pense à l'Ancien Testament, comment est-ce que Dieu a guidé Abraham pour manifester sa puissance en Égypte, pour faire sortir son peuple? Comment est-ce que Dieu a nourri les foules de son ciel? en envoyant un SMS. Ses disciples sur terre, ils se disaient, c'est pas possible. On ne peut pas le faire. Mais Dieu l'a fait. Dieu est venu sur notre route. Dieu nous a interpellés. Un jour que notre Seigneur faisait des heures en plus le soir, il n'était pas payé en double pour ça. Un maître de la loi. Un enseignant, quelqu'un qui connaissait tout, qui avait tous ses diplômes, est venu le voir et lui a dit « Seigneur, va falloir que tu m'expliques un truc. Comment quelqu'un peut-il naître de nouveau ? Comment tu veux que j'explique ça aux gens ?» Et Jésus lui a dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. » Pas le comprendre, pas en parler, pas le recevoir. Nous sommes appelés, mes amis, nous sommes appelés à rentrer dans ce royaume qui est Jésus. Avec de nouvelles règles, avec une nouvelle charte, un nouveau descriptif. Et ce nouveau descriptif, il se trouve dans Matthieu, chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7, parce que c'est l'enseignement majeur de Jésus. On en a parlé il y a quelques années, j'avais fait une série. Je pourrais retravailler là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est sous quelle charte vivons-nous ? Dans quelles conditions ? Est-ce que notre Dieu est proche ou il est tellement lointain ? Est-ce qu'il est roi ? Ou est-ce qu'il est sauveur ? Vous savez, on a remplacé deux termes dans notre compréhension. On comprend que Dieu nous justifie. D'accord ? Vous comprenez le mot justifier ? Ce qui nous rend pur et nous assure qu'on va passer l'éternité avec lui. Et là, on est tous contents parce qu'on a tous notre billet. Hein ? Je suis au siège 42. T'as vu ? T'es où, toi ? Ah, moi, je suis au 16-12. Ah, bah, t'es devant. T'es en économie plus ou quoi ? Mais on a oublié un mot. C'est le mot régénération. Parce que la justification nous envoie au ciel. La régénération nous garde les deux pieds sur terre et nous dit dans ta vie de tous les jours, dans tes relations avec ton époux, avec tes enfants, avec ton patron, avec tes amis, ça se passe comment ? Ben, plus ou moins bien. Plus ou moins bien. Parce que quelque part, le royaume de Dieu, il est encore bien loin. Mais si nous rentrons dans le royaume de Dieu, comme Dieu nous y invite, alors nos relations, alors notre communion, alors notre compréhension va passer par la régénération, la transformation, la modification, la régénération, la transpiration, pour pouvoir être à l'image de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait. Heureux ceux qui peuvent, ceux qui sont pauvres, car le royaume de Dieu les appartient. Dieu n'appelle pas la tranche sociale du bas. Il n'appelle pas, il dit que ça sera très compliqué pour les riches. Il dit que pour qu'un riche rentre dans le royaume de Dieu, c'est plus compliqué à un chameau de passer par le trou d'une épingle. Mesdames les couturières, hein, on va demander à Lourdes de faire passer un chameau par le trou d'une épingle. C'est l'embryon du chameau, et encore. Hein. Mais Dieu nous a mis de côté une vie en abondance. Une vie faite de bienfaits. Il nous a dit par l'apôtre Paul que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon ses desseins, selon son plan. Seigneur, bénis mon plan. Ouais, le tien, il a l'air un peu compliqué, mais le mien, c'est plus simple, tu vois, Seigneur. Puis si tu bénis là, tu vas voir ce que je vais faire avec. Hein. C'est pas ça que tu veux. Hier, on a parlé, hein, à l'Institut biblique. Succès, réussite. C'était réussite et échec ou succès et échec? Oui. Et ça fait réfléchir, non? Est-ce que Jésus est proche de vous? On dit oui, il est là. Mais enfin, il rentre partout avec moi quand même. Est-ce que Dieu ne rentre pas dans les mauvais endroits? Dans les endroits où on ne devrait pas être? Dans les endroits où, quelque part, la gloire de Dieu n'est pas glorifiée, mise en avant? Où on va cacher notre identité, mettre des lunettes noires? Vous savez, un jour, il y avait une réunion avec quelqu'un qui était connu pour ne pas être une personne bien, pour prêcher un faux évangile. Et on a envoyé des personnes pour aller vérifier que le faux évangile était bien un faux évangile. Alors ces personnes sont allées sur place et ils ont dit: on va se cacher dans la foule. On va se mettre au fond, dans le noir, personne ne nous verra, comme ça on va pouvoir prendre des notes. À l'arrivée, il y avait tous les gens qui connaissaient les espions. Oh, t'es là toi aussi? Oh, bah c'est bien, tu vas pouvoir entendre. Dieu, il sait exactement où nous sommes, mes amis. On ne peut pas se cacher. Vous savez, quand Dieu il demande à Adam: hé Adam, Adam, t'es où? Tu fais quoi? Est-ce que Dieu l'avait perdu son GPS? Est-ce que vous croyez qu'il y avait une coupure? Il était sous un pont, il était sous le viaduc. Dieu savait exactement où il était, mais il voulait l'entendre dire: hé, bon, j'ai mis un petit business entre toi et moi, Seigneur. J'ai pas amené ma femme à faire ce qu'il fallait, hein. Mais il lui a pas dit ça. Quand Dieu appelle Abel et Caïn, vous croyez qu'il l'avait perdu de vue? Vous croyez qu'il ne savait pas ce qu'il avait fait? Quand Dieu appelle dans Ésaïe: qui se lèvera et qui marchera pour moi? Vous croyez qu'il ne savait pas que le prophète Ésaïe, là, il allait se lever? Il avait la puissance de dire: hé, Ésaïe, hein, si c'était le magicien d'Oz, lève-toi. Quand il dit à ses disciples: suis-moi, et que ses disciples laissent tout sur place, vous croyez que Dieu ne sait pas? Mais il veut entendre. Oui, je viens. Dieu nous appelle à rentrer dans son royaume. On peut avoir entendu toute notre vie parler de l'évangile. On peut avoir grandi dans une famille chrétienne, avoir été à toute l'école du dimanche dirigée par Jocelyne. Ça ne fait pas de nous des chrétiens. Ça ne fait pas de nous des chrétiens d'assister. On peut venir régulièrement depuis 1900. Il y en a peut-être qui sont là depuis 1982, je ne sais pas. Depuis qu'on a posé la première pierre. Ça ne fait pas de nous des chrétiens si on n'est pas rentré dans le royaume de Dieu. Dieu nous demande de rentrer dans ce royaume pour qu'il devienne notre roi. Celui qui dirige notre vie. Pas qui dit: bon, bah, quand tu auras un problème, passe-moi un coup de fil. Il y a des gens, ils me disent, hein, souvent: si tu as besoin de rien, il n'y a pas de souci, tu m'appelles. Par contre, notre Dieu, moi, je ne vais pas juste le voir quand ça va mal. Mais je vais aussi le voir quand ça va bien. Pour que lui soit glorifié. Pour que ce qui semble être mes succès soit ses succès. Pour que mes bonheurs soient ses bonheurs. Quel est le plus, on a posé la question aux jeunes hier, quel est le plus grand succès que tu as rencontré dans ta vie? La majorité, c'était leur permis, leur diplôme. Il n'y en a pas un qui a dit la nouvelle vie. J'étais un petit peu étonné. Et puis l'orateur, il me regarde et il me dit: et toi, Jean-Claude? Je dis: ma famille. Je dis: ta famille, c'est ton succès? Je dis: non, pas le mien. Mais celui de Dieu. Mes amis, il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler dans notre vie. Les événements, on ne peut pas les contrôler. Mais vous savez une chose? Dieu, lui, les contrôle. Et Dieu, s'il devient notre roi, quand il y a de la tempête, quand il y a du vent, quand il y a la maladie, quand il y a le chômage, quand il y a l'impossibilité, quand il y a la sourdité, quand on ne peut pas avoir d'enfant ? Dieu, lui, n'est pas sourd. Et Dieu connaît notre vie. Mais la question, c'est, est-ce qu'il est bien le roi de ma vie ? Est-ce qu'il est celui qui me contrôle ? Ou est-ce qu'il est celui que je contrôle ? On joue beaucoup, vous savez, on a développé pour les enfants tous les jeux. Et la majorité de ces jeux, c'est contrôler, prendre contrôle d'eux. Et les hommes, je pense que ces 20 dernières années, ces 30 dernières années, ils ont voulu prendre contrôle de Dieu. Mais Dieu leur rappelle souvent, hein, c'est moi qui contrôle. Alors à nous, chrétiens, est-ce que le royaume de Dieu est proche pour nous ou est-ce qu'il est loin ? Dans 2 Corinthiens 3, 18, il est dit « Lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit, est la liberté. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Rentrer dans le royaume, c'est rentrer dans un nouveau monde. Pas un monde où il y a des sorcières, pas un monde où il y a des magiciens, pas un monde où il y a de la tromperie, mais dans un monde où il y a notre Dieu. Et je vous invite, pendant cette semaine, à relire ces trois chapitres, qui sont les chapitres capitaux, Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7. Et de comprendre la première partie où c'est marqué « heureux », de lire « béni ». De lire « béni ». Certaines versions le donnent. Hein. Et de prendre la deuxième partie où Jésus nous demande « on vous a dit, mais moi je vous dis ». De dire « Seigneur, je ne peux pas y aller là. Je ne peux pas y aller là. » Quelqu'un m'a dit hier, c'était même impossible. J'enseignais sur ce texte-là, il m'a dit « c'est impossible Jean-Claude ». J'ai dit « oui, toi tu ne peux pas y aller. Moi je ne peux pas y aller. » Mais Dieu peut t'y amener. Parce que s'il devient le roi de ta vie, c'est lui qui va t'apprendre à aimer ton ennemi. C'est lui qui va t'amener à bénir ton ennemi. C'est lui qui va t'apprendre à dire merci de cette situation de vie. C'est pas celle que je voulais, mais c'est celle que tu m'as donnée. Quelqu'un a dit hier soir aux jeunes, il a dit, si vous priez pour quelque chose et que vous ne l'avez pas, apprenez déjà à aimer ce que vous avez. Apprenez déjà à aimer ce que vous avez parce que c'est Dieu qui vous l'a donné. Dieu nous a donné un royaume. Et mes amis, il n'est pas à des années-lumière. Notre Dieu n'est pas avec sa longue barbe dans son rocking chair à des années-lumière en train de regarder son programme préféré à la télévision. Mais il est parmi nous. Le problème, l'action, c'est ce que nous sommes rentrés dedans. Amen. On va prier.